et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut à tous les deux!
Salut Darina!
Salut Darina! Salut Charles!
Salut!
Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat Amcamgram sur une question que tout le monde se pose, à savoir, est-ce que l'account manager doit s'occuper de la partie commerciale ou pas? Dans le sens où c'est vrai qu'on a tendance à mettre à l'opposé les sales ou les hunters, donc avec un profil dit chasseur, aux account managers, dit farmer ou encore éleveur en français. Du coup, on se demande si l'account manager doit aussi faire de la chasse, bien sûr à son échelle, c'est-à-dire parmi les clients existants, ou bien est-ce que toute la partie qui va toucher à l'argent, on va dire au renouvellement, doit être plutôt rebasculée côté sales. Moi, ce que j'ai vu dans la plupart des cas sur le podcast jusqu'à présent, c'est que la dénomination de CSM, donc c'est souvent uniquement du care, de la formation, de la satisfaction des clients, versus l'AM, donc l'account manager, où là, il y a beaucoup plus un aspect commercial, chasseur, avec ces notions d'upsell et de cross-sell qui se font ressentir. Du coup, est-ce que c'est vraiment ça la norme? Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines entreprises qui vont plus se positionner sur des intitulés de postes un peu à la mode, ou bien est-ce que ça va être très structuré, genre AM égale commercial et CSM égale ne fait pas de commercial. Donc, pour creuser cette question, pour en débattre, j'ai convié deux invités qui sont pour le coup situés aux deux extrêmes, avec d'un côté Charles, qui est account manager chez La Fourchette, où pour le coup le côté commercial chasseur est très présent dans son quotidien, dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de restaurateurs, et de l'autre, Marion, qui est CSM chez PlayPlay, qui là est au contraire focalisé à 100% sur le care et ne traite pas du tout des sujets financiers. Donc, avant de commencer, messieurs, dames, présentez-vous s'il vous plaît.
Moi, c'est Marion, j'ai 26 ans. Avant d'arriver chez PlayPlay, je suis passée par un poste de bizdev dans l'audiovisuel. Et donc là, ça fait un an et demi que je suis chez PlayPlay au poste de Customer Success Manager. Je vais peut-être présenter PlayPlay rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil de création vidéo en ligne à destination des communicants en entreprise. Pour faire simple, on peut dire que c'est un peu le Canva de la vidéo. Côté plutôt perso, moi je suis passionnée de cinéma. Et mon plat préféré du moment, c'est la shakshuka.
Ah, pareil, j'ai découvert la shakshuka chez Quali Sisters. Je pense
incroyable.
Que c'est une fois. Bon, et ben on va laisser la main à celui qui connaît le mieux les restaurants, Charles.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Charles, j'ai 32 ans. J'ai commencé chez The Fork, donc anciennement du coup La Fourchette, il y a 8 ans. Donc j'ai commencé je vais faire très rapide, en 2012 au service support B2B. Puis j'ai commencé en 2014 à un poste d'inside sales dans l'acquisition de nouveaux partenaires. Puis ensuite team leader, donc d'une gestion de 6 personnes dans l'équipe inside. Et en 2016, j'ai pris le poste de compte manager, donc la gestion de différents portefeuilles en France, mais actuellement essentiellement sur la Gironde. Et pour ceux qui ne connaissent pas The Fork, c'est un site de réservation pour les restaurants, mais notre premier métier également est un cahier de réservation de gestion pour les restaurateurs.
Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout The Fork, j'en parle jamais sur le podcast.
On ne sait jamais, je préfère le redire. Et ma passion, c'est la pêche. Donc la pêche, j'aime pêcher en rivière, en étang, mais également en mer. Et mon poisson favori, c'est la carpe. J'aime bien passer 20 minutes à se débattre avec mon poisson et voir le monstre près de la rive, c'est un réel plaisir. Et mon plat préféré, c'est le pot au feu.
Mais non!
Si, le pot au feu. un mélange de légumes et de viande mijoté plus de 4 heures. Oh là là, c'est super.
Oh là là, mais quel serveur, le mec est trop healthy pour nous, quoi. Bon, bah, merci pour ces présentations. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur voilà, la question justement, est-ce que l'account manager au sens large doit faire de la chasse ou pas, et dans quelle mesure? Du coup, je vais commencer peut-être par le début, c'est-à-dire la phase d'onboarding. Par exemple, moi, quand je suis arrivée chez Welcome to the Jungle en tant qu'account manager, en fait, la première chose que j'ai dû valider pour mon parcours d'onboarding, c'était le discours sales. On m'a formée sur le discours sales pour être capable de pitcher aussi bien qu'une personne dont c'est véritablement le métier. Et tant que je n'avais pas validé ce qu'on appelle notre simulation de pitch sales, je ne pouvais pas passer aux étapes suivantes relatives spécifiquement à l'account management. Donc, ma première question pour vous, ça va être, est-ce que vous aussi, quel que soit le corps de métier lorsqu'on arrive dans votre entreprise, on doit être forcément au courant de toutes les techniques de sales?
Je me permets de prendre la main. Chez nous, chez The Fork, c'est hyper important que ce soit service support, service client, marketing, AM Sales, d'avoir toutes les clés en main pour que tout le monde connaisse tous les différents produits pour gérer au quotidien au mieux nos différents appels avec les restaurateurs. C'est hyper important.
Nous aussi, c'est super important, mais on le prend plus dans l'approche vraiment customer success que dans l'approche sales. Pour vous dire, chez nous, on a un processus d'onboarding avec tous les nouveaux. Ils vont passer chaque semaine avec une équipe pour découvrir leur métier. Et la première semaine, c'est avec le customer success. Et donc, on va former tous les nouveaux à l'outil. Ils vont participer à une formation avec un client, pour qu'ils comprennent bien sur quel est le produit PlayPlay et qui sont nos clients. Donc, c'est beaucoup plus focus sur l'utilisation et le client que le discours sales.
Ouais, si je comprends bien, toi, Charles, tous les départements de l'entreprise vont connaître parfaitement tous les leviers qui existent pour générer du business. Et chez toi, Marion, chez PlayPlay, ça va être davantage toute la partie pédagogique, accompagnement.
Exactement. Et bien comprendre qui sont les clients, mais en effet, plus dans l'optique de bien les accompagner et comprendre leurs besoins.
Ok, très clair. Alors, vous deux, donc toi, Charles, ton intitulé de poste, c'est bien Account Manager, et toi, Marion, c'est bien CSM. J'aimerais commencer par différencier un petit peu la finalité de votre travail. C'est quoi vos KPI?
Vas-y Marion, je te laisse prendre la main.
Ok. Alors moi j'ai deux KPI principaux. Premièrement, ça va être l'usage. Donc concrètement, est-ce que mes clients produisent des vidéos régulièrement? C'est le KPI principal que je vais aller suivre, à la fois au niveau des entreprises et au niveau de l'utilisateur. Et ensuite, le deuxième, ça va être bien sûr le taux de renouvellement et donc le churn sur lequel je suis objectivée. Parce que c'est même si je ne gère pas l'upsell ou l'expand, je vais gérer le renouvellement de mon portefeuille. Donc, je garde un petit aspect commercial, même si ce n'est pas le gros de mon travail.
Moi, j'ai deux objectifs qualitatifs et quantitatifs, mais dans ces deux objectifs, j'ai différents KPI. Le premier qualitatif, c'est l'usage. Donc, je reprends un petit peu ce que tu dis, Marion. C'est vraiment l'utilisation de l'outil de gestion de réservation du coup pour les restaurateurs. Le but, c'est qu'ils utilisent au mieux le cahier de réservation. Ensuite, un deuxième qualitatif, c'est les irritants. Qu'est-ce qu'on appelle irritant? C'est par exemple quand un restaurateur annule la réservation d'un client. Donc, notre but, c'est de réduire justement ce pourcentage d'irritants, ce pourcentage d'annulation, pour éviter justement des mécontentements côté B2C et mécontentements côté B2B. Donc, vraiment, c'est au niveau de l'expérience client. Au niveau commercial, on a différents KPI également, c'est la promotion. Donc, la promotion est un levier qui permet aux restaurateurs d'augmenter sa visibilité et d'attirer un maximum de nouveaux clients sur des créneaux horaires dont il n'a peut-être pas forcément beaucoup de monde. On a le programme de fidélité. C'est un programme de fidélité qui permet également d'augmenter sa visibilité au restaurateur et pour le client de pouvoir, pouvoir bénéficier de son programme de fidélité dans ses restaurants. Et ensuite, on a également le RB, qu'on appelle ça le cahier de réservation. On a différentes solutions qui permettent d'avoir un plan de salle et un outil marketing. Donc, voici les KPI qualitatifs et quantitatifs que nous avons chez The Fork.
Ok, ouais, très très clair. Donc, je remarque que vous êtes tous les deux objectivés sur l'usage, que ce soit en account management ou en CSM finalement.
Oui, exactement.
Tout à fait.
Si j'essaye de transposer ça en termes de compétences, alors à la fois des soft skills et des hard skills, à votre avis, de quelles compétences est-ce que vous devez faire preuve pour mener à bien vos KPI? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième à laquelle justement je voudrais faire place, est-ce qu'il vous manque certaines compétences au vu de votre organisation?
Moi, honnêtement, les compétences soft et hard, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux, il faut avoir le sens de la relation client, l'écoute, répondre aux objections, connaître les besoins de mon partenaire, c'est hyper important. L'adaptabilité, vraiment, tout restaurant est différent, donc il faut que je m'adapte à mon interlocuteur. Je peux avoir, par exemple, une crêperie qui a un ticket moyen de 12 euros et 15 couverts, mon approche est différente qu'un restaurant gastronomique qui a un ticket moyen de 80 euros, par exemple, avec 60 couverts. La connaissance du secteur, qui est hyper important également, bien faire sa veille concurrentielle, savoir tous les concurrents qui peuvent exister sur sa zone. La saisonnalité, par exemple, je m'occupe de Bordeaux, donc sur la côte Arcachon, côte Atlantique, l'été c'est différent comme l'hiver, donc il faut s'adapter. Et l'autonomie, j'ai la chance d'aller de temps en temps sur le terrain, donc d'aller voir mes partenaires, donc être autonome, d'être tout seul sur le terrain, d'aller voir mes partenaires, qui me donnent confiance, qu'on puisse échanger, qu'on puisse trouver les meilleures solutions qui permettent aux restaurateurs de développer son business et fidéliser ses futurs clients.
Et est-ce que tu pêches avec tes clients de temps en temps quand tu vas à Arcachon ou
Non, je pêche pas, mais je vais à la je vais à la pêche de mes différents leviers commerciaux.
Oh non, oh là là.
Il l'a fait.
Je l'ai fait.
On n'est même pas encore à 10 minutes.
Non, par contre, ce que je peux vous dire, quand je vais me déplacer, je vais amorcer du coup mes clients pour qu'ils aient du coup tous les poissons ensuite qui viennent. Donc quand je dis poissons, c'est tous les clients qui viennent du coup dans leur établissement, grâce à nos différents leviers commerciaux.
J'adore la métaphore filée.
C'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
Bon, bon courage Marion pour passer derrière le poète.
Oui, ça va être dur. Moi, je rejoins beaucoup Charles sur le côté sens de la relation client. Je pense que qu'on soit AM ou CSM, c'est bien sûr évidemment le cœur de notre métier, de tisser des relations de confiance avec nos clients, bien comprendre leurs enjeux, s'adapter à leurs enjeux. Qu'il y ait un fort côté commercial ou non, c'est essentiel. Moi, je pense que de mon côté, ce qui est peut-être un peu plus fort, c'est vraiment la posture de conseil et d'accompagnement que j'ai peut-être plus travaillé parce que c'est vraiment l'essentiel de mon job. Pour vous dire de manière très concrète, en fait, donc PlayPlay, c'est un outil pour créer des vidéos. Mes clients, donc, ils vont l'utiliser eux-mêmes pour créer des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je vais leur apporter une vraie expertise sur le contenu, sur la vidéo. Donc, je vais leur envoyer des exemples de vidéos inspirationnelles. Je vais leur faire des retours sur leurs vidéos de manière personnalisée. Et on va organiser des workshops pour les faire monter en compétences. Donc, c'est vraiment passer du temps là-dessus. Et forcément, faire preuve aussi beaucoup de proactivité et d'anticipation. Comme moi, l'idée, c'est vraiment d'être focus sur l'usage et de prévenir le churn. Il faut absolument que je fasse en sorte qu'ils soient méga satisfaits de l'outil et qu'ils puissent développer leur usage pour que PlayPlay soit en fait indispensable. Parce que la vidéo, c'est pas forcément un must-have pour tout le monde. Voilà. Et du coup, côté de ce qui me manquerait peut-être, comme je fais très rarement de la négo commerciale, j'ai pas du tout ces hard skills de chasseur et de commercial. Charles parlait aussi de répondre aux objections. Bah, c'est pas quelque chose auquel je suis forcément très entraînée. Donc, si j'ai un client qui me dit, bah, je suis pas satisfait, je remets en cause tel ou tel avantage que vous avez vendu pour PlayPlay, c'est pas quelque chose sur lequel je suis naturellement très à l'aise.
Ok. Et tu t'occupes de combien de clients, toi, dans ta zone ?
Moi, là, j'ai un portefeuille de 100 clients.
Ok.
Avec lesquels je vais avoir des points de contact plus ou moins réguliers, mais je vais, je pense, parler à chaque client tous les, au minimum tous les 3 mois. Mes gros clients, je vais leur parler toutes les 2-3 semaines.
D'accord.
Voilà.
C'est intéressant ce que tu disais sur la partie objection, parce qu'on pourrait très bien se dire que plus tu vas parler, enfin plus tu vas avoir de touch points avec tes clients, plus tu vas être tenté de leur proposer des choses. Enfin, là, je pense notamment à toi, Charles, ou pour apparaître dans ta situation, on nous demandait toujours voilà, d'essayer de nouer un contact sur le long terme et puis d'essayer comme ça de se rapprocher du fil rouge, d'aller proposer le maximum de choses à un restaurateur. Est-ce que le fait d'être proactif peut mener de temps en temps à de la friction, à de l'insatisfaction, parce qu'on essaye trop de creuser, on essaye d'en avoir peut-être plus que de raisonnable, plus que des raisons, pardon. Et toi, Marion, tu dis que tu fais de la proactivité, mais est-ce que ça amène de l'insatisfaction pour autant ou pas ? Est-ce que tu es trop pushy des fois avec tes clients ?
Je pense pas que... Alors oui, ça peut arriver d'être trop pushy, hein, mais ça reste quand même assez rare. En fait, moi, le challenge, c'est de jauger l'accompagnement qu'attend chaque client. Parce que, bah, c'est ce que disait Charles, c'est l'adaptabilité. Je peux avoir des clients qui s'attendent à avoir beaucoup d'accompagnement. Et donc là, je pourrais, j'aurai jamais trop pushy quand je propose des services en plus. Et il y en a d'autres qui veulent être très autonomes. Et donc en effet, là, ça servira à rien que je leur propose 4 workshops dans l'année. Ça serait contre-productif. Donc il y a vraiment un dosage à faire en fonction de chaque client et aussi une coordination à avoir avec les sales. Parce que bon, ça, on en parlera après de l'organisation, j'imagine, avec l'équipe commerciale. Il faut absolument avoir une bonne coordination avec l'équipe sales pour pas qu'il y ait trop de touch points. Puisque comme c'est pas moi qui m'occupe de la pure partie commerciale, si jamais les clients ils vont avoir trop de mails d'un coup des deux côtés, là, ça peut les énerver. Donc, il faut faire attention à ça.
Ok, moi je me permets de justement le fait de parler de pushy. C'est vrai que toi, Marion, tu t'occupes d'une centaine de clients sur ton portefeuille. Moi, j'en ai à peu près 1000. 1000, donc c'est on fait un fois 10. Donc effectivement, moi de mon côté, je suis des fois très très pushy. Donc j'oublie des fois même ce peu de parler de suivi client, de savoir bah tiens, on va mettre en place une offre commerciale et est-ce que je vais te rappeler dans 3 mois. Ça par contre des fois c'est compliqué avec 1000 établissements de faire le suivi.
Moi ouais, j'imagine.
C'est pas simple. Donc des fois on est trop pushy sur nos objectifs, sur nos KPI. On veut vendre, on veut proposer la meilleure solution en répondant bien entendu aux besoins de nos clients. Mais des fois, on peut oublier certains aspects qualitatifs. Là, par exemple, en ce moment, de notre côté, c'est délicat de tout ce qui se passe avec les différentes mesures. Et donc, du coup, là, en ce moment, on fait une opération qui s'appelle Retournons au restaurant. Donc, le concept, c'est de proposer une belle offre aux internautes et une belle offre également pour les restaurateurs. Sachant qu'il faut aussi ne pas oublier que c'est délicat la restauration en ce moment, donc faut y aller parcimonie et y aller petit à petit. Et donc du coup, là aussi en ce moment, on est très sur l'outil, l'ERB, on va dire le cahier de réservation. On essaie de leur proposer tous les outils de gestion comme le plan de salle, comme les empreintes bancaires, la reconfirmation automatique, pour qu'ils puissent justement gérer au mieux au quotidien. Suite aux différentes mesures du gouvernement.
C'est intéressant. Donc, ça veut dire que là, face à la situation actuelle, vous, les account managers, vous allez faire preuve de, davantage d'empathie pour vous focaliser sur un discours peut-être plus qualitatif et plus axé long terme finalement.
Tout à fait. Sans oublier aussi les objectifs commerciaux, parce qu'un restaurant qui maintenant change ses horaires de 18h à 20h, bah peut-être qu'à 18h, 19h, enfin entre 18h et 19h, il a peut-être besoin d'un coup de pouce. Donc ça peut être une solution, par exemple, de mettre en place une promotion sur peut-être un nombre de couverts limité pour attirer et changer les habitudes des clients, des internautes. Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus sur de l'empathie, de l'écoute, on va dire entre guillemets du social aussi. mais vraiment, vraiment, le but, c'est aussi qu'on est tous ensemble, on est main dans la main, enfin, on marche ensemble et on va y arriver tous ensemble.
Mais c'est vrai que la période actuelle, je pense, renforce le côté. On doit se mettre dans une posture de partenaire long terme, que ce soit côté AM ou côté CSM, pour montrer à nos clients qu'on est là pour eux. Et c'est vrai que tout en pensant à la dimension commerciale, je pense que c'est un moment où on doit rassurer aussi et pas forcément être super pushy.
Tout à fait.
Et toi, Marion, comme tu as d'excellentes relations et puis très régulières, comme tu peux te le permettre, c'est génial, avec tes clients, t'as pas justement envie de prendre cette opportunité et de le convertir côté business ?
Si. si, forcément. Moi, j'ai quand même un rôle, hein, bien sûr, dans le développement commercial de PlayPlay. En fait, mon rôle, ça va être d'identifier des opportunités chez mes clients pour faire de l'expand. En fait, juste petite précision pour que tout le monde ait les bonnes informations. Chez PlayPlay, en fait, on vend un abonnement, donc pour avoir accès à l'outil. Et en fait, on a deux niveaux d'abonnement. Et l'abonnement, c'est à l'utilisateur. On n'a pas beaucoup d'options en plus que je pourrais vendre à mes clients. Donc en fait, nous, la manière de faire de l'upsell, c'est qu'on ait plus d'utilisateurs chez nos clients. Donc on va par exemple on va commencer chez un client avec l'équipe de communication interne, et l'objectif, c'est qu'ensuite on équipe l'équipe de com RH, l'équipe de com corpo, l'équipe marketing, etc. Du coup, moi, mon but, c'est que mes premiers utilisateurs soient super satisfaits, qu'ils en parlent en interne, ou que d'eux-mêmes me disent « Ah, telle équipe pourrait être intéressée, est-ce que vous pourriez pas leur faire une démo ?» Donc moi, j'ai ce côté-là un peu de proactif dans l'identification d'opportunités, que après je vais repasser au sales pour qu'ils s'occupent de la démo et de la contractualisation.
Tu trouves que c'est mieux d'être full stack ou c'est mieux de segmenter les rôles comme tu viens de le décrire ?
Je pense que les deux. Je sais que c'est un débat et que je dois prendre position, mais je pense que les deux se valent, ont leurs avantages et peut-être aussi leurs inconvénients. Moi, je pense que le côté séparation, ce qu'il y a de très bien, c'est que quand on fonctionne bien avec les sales en binôme, on a une relation un peu en mode good cop bad cop, où moi, je vais avoir le côté hyper quali de la relation, très positive, où je vais accompagner les clients, je vais être comme un partenaire pour eux, et ça va être très facile en fait pour moi de naturellement aller spotter des opportunités sans que ça fasse trop pushy, parce que j'ai cette relation. Et le côté contractualisation et négo reste du côté sales, qui peut parfois apporter un peu des frictions. Et en fait, je pense que c'est notamment très bénéfique pour quand on gère des gros groupes. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont des grosses boîtes où va y avoir des process de où on va passer par les achats, on va passer par des grosses négos, des processus contractuels un peu lourds. Et en fait, le fait que moi je me détache de ça, ça permet de juste rester sur la relation hyper quali d'accompagnement. Et de pas aller sur ces problématiques-là qui peuvent peut-être amener des frictions.
Ma question, ouais, de ton côté, c'est par exemple, toi, si t'es avec un client qui aimerait du coup aller sur un outil un peu plus évolutif, toi, tu le transmets directement à un sales, si je comprends bien.
Alors, en fait, comme on a rarement ce cas d'usage, en fait, nos deux abonnements sont quand même assez différenciés et ont deux cibles différentes. On a un abonnement à un prix plus bas, enfin, qui est pour plutôt les petites entreprises, et un abonnement plutôt pour les grosses entreprises. Il y a très peu de passages de l'un à l'autre pour l'instant. Et donc, en fait, moi, ce que je vais passer aux sales, c'est plutôt chez tel client, je sais que une autre équipe est intéressée pour s'équiper avec Playplay. Je te passe leur contact, fais-leur la démo. Ils testent l'outil et s'ils sont satisfaits, ils repassent vers moi. Mais en fait, l'opportunité finalement est chez des gens que je ne connais pas.
Et toi, de ton côté, tu n'as jamais essayé du coup de le faire de A à Z, justement, de proposer à l'autre équipe pour avoir un côté satisfaction, en disant, tiens, j'ai réussi à avoir, par exemple, sur... Ils sont actuellement 5 à l'utiliser, maintenant 10, et c'est grâce à moi.
Ça a pu m'arriver, mais c'est vrai que c'est assez ponctuel. Et en effet, quand tu dis oui, le côté satisfaction, c'est vrai que moi, ma satisfaction, en fait, c'est que aujourd'hui, que l'usage prenne, que mes clients renouvellent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté un peu vraiment la satisfaction très forte de se dire j'ai augmenté mon portefeuille. Ça, c'est vrai que
D'accord.
parfois ça manque un peu ce côté je vais aller chasser et j'ai réussi à accrocher des nouvelles personnes.
Ok, d'accord.
Je rebondis sur ce que tu disais, Charles. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue sur pourquoi est-ce que c'est intéressant de gérer la relation client de A à Z? Et la question subsidiaire, vu que tu fais beaucoup de chasse dans ton métier d'AM, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de doublon avec les propositions qu'ont déjà formulées les sales en amont de la signature du contrat?
Alors, c'est vrai que moi, je m'occupe donc des partenaires une fois référencés sur la fourchette. Après, effectivement, il y a différents leviers donc qualitatifs que je reparle sur mes KPI. C'est au niveau de l'utilisation du cahier de réservation. Actuellement, on a trois cahiers de réservation. On a un cahier de réservation qui est gratuit, qui est simple, mais qui permet de faire la prise de réservation et recevoir les réservations qui viennent d'Internet. On en a un autre qui est une version pro qui permet d'avoir un plan de salle, d'un outil de reconfirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc beaucoup plus personnalisé. Donc ça, c'est un abonnement premium qui est payant. Et l'abonnement Pro Plus qui là permet de tout avoir, en fait, c'est l'offre la plus complète, qui permet également de faire des campagnes email, des campagnes SMS et d'accéder à sa base de données. Donc moi, le plus important, c'est vrai que quand j'ai un client au téléphone, parce que c'est essentiellement par téléphone que je gère mon portefeuille, c'est de leur déjà de connaître tous les besoins. Tous les besoins. Et si je sens qu'un restaurant a un intérêt. Bah, le fait d'avoir un plan de salle pour gérer au mieux sa salle et optimiser son taux de remplissage, c'est moi qui vais lui faire la démo. C'est moi qui vais lui faire la démo parce que aussi ça fait 8 ans que je suis à la fourchette et également je connais mon métier et que j'aime connaître les différents besoins pour ensuite m'adapter aux critères dont le restaurant a réellement besoin.
Si je peux me permettre, est-ce que tu ne fais pas un doublon avec la phase de découverte déjà opérée par le sales?
Bah, ça peut être un doublon, mais généralement, par exemple, quand un sales va à la chasse d'un nouveau restaurant, lui, il fait dans tous les cas sa découverte. Il fait sa découverte et ensuite il le signe. Une fois que moi je l'ai dans mon portefeuille, mon objectif c'est aussi de reconnaître un petit peu ses besoins. Donc on fait peut-être doublon, mais c'est essentiel parce que peut-être que ma collègue n'a pas pu découvrir tous ses besoins. Donc moi, je refais une nouvelle session de découverte pour essayer de répondre à ses besoins et de répondre à l'objectif du restaurant qu'il veut dans le futur.
Et ça, je te rejoins, Charles, parce que nous aussi, de mon côté, même si j'ai pas le côté commercial après de lui reproposer des options, on va toujours refaire une phase de découverte, même si les sales l'ont déjà fait, parce que on peut avoir loupé une information, parce que toi, tu as aussi une autre position que la personne au sales, et peut-être que le restaurant va te dire plus de choses, va prendre le temps de plus t'expliquer ses besoins, j'imagine.
C'est ça. C'est ça. Et bon, ce qui peut arriver aussi, des fois, ça peut être en fin du mois, etc. Un sales fait du coup peut-être de la survente sur certains produits. Ça peut arriver. Et du coup, le but, bah, c'est pour ça de refaire une découverte pour réellement savoir si cet outil, si ce besoin-là est réellement, pardon, je répète souvent le besoin, mais savoir si c'est réellement son besoin phare, son besoin principal.
Et Charles, tu sais, on parlait du fait d'être trop pushy. Est-ce que toi, tu sens que parfois dans ta relation avec les restaurants, le fait que tu aies le côté quand même très commercial, est-ce que ça freine certains restaurants dans la relation qu'ils ont avec toi, le fait d'avoir confiance dans tes conseils?
Ouais, très bonne question. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, et c'est vrai que parfois je suis très pushy, donc si par exemple un client me dit « j'ai du mal à remplir mon thème en ce moment », c'est vrai que je peux lui déplier toute ma mallette et sortir tous mes leviers, et malgré que je lui pose des questions, je peux sentir aussi des fois quand je suis très pushy au niveau commercial, sentir que le client s'éloigne petit à petit au téléphone, et qu'il sent réellement derrière que j'ai envie de lui proposer quelque chose. Donc, c'est certainement un peu très mauvais, parce que du coup, la prochaine fois, il ne me répondra pas au téléphone, ou la prochaine fois que je l'appelle, il va savoir direct que je veux lui proposer quelque chose.
Mmh. C'est hyper intéressant. Et là, on a beaucoup parlé de satisfaction client, mais tu viens de soulever, Charles, qu'est-ce qu'il en est du sujet du churn ? Qui est-ce qui le gère chez vous et dans quel état d'esprit ?
Je prends la main, je continue du coup. C'est vrai, le churn, c'est hyper important dans la gestion d'un client qui souhaite partir. Pour ma part, chez The Account Manager, c'est à nous de gérer ce churn. C'est à nous de gérer ce churn. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, on a eu la relation tout au long des années, des mois avec ce client, et de savoir qu'il veut partir, c'est très embêtant. Donc notre but, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi il veut partir, qu'est-ce qui lui a pas plu, pourquoi il a été peut-être insatisfait de nos services. Donc il y a plein de choses. Est-ce que l'utilisation du cahier de réservation, ça lui a pas plu, ou peut-être qu'il a pas été assez bien formé sur cet outil-là. Est-ce que les différents leviers, il était au courant qu'on avait plein de leviers qui lui permettaient d'augmenter son chiffre d'affaires et sa fréquentation client. Après, on a beaucoup d'outils aussi qui sont gratuits. Peut-être qu'il n'était pas au courant, le fait d'avoir un module de réservation sur son site, sur sa page Facebook, son compte Instagram, qui permet à ses clients de réserver directement une table en ligne selon ses disponibilités, ça c'est entièrement gratuit. Et aussi, on peut leur offrir un site internet qui est entièrement gratuit également. Donc peut-être qu'ils ne connaissaient peut-être pas tous les outils, donc c'est à nous de gérer ce churn pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, ou qu'est-ce qu'on pourrait du coup améliorer pour justement vous garder, et que au pire on reparte à zéro avec toutes les meilleures solutions.
Et ce qui est malin, c'est que là tu vas chercher en tant qu'account manager à le garder, mais avec des outils gratuits. Donc ça va être une démarche commerciale sans intérêt financier derrière et purement de la satisfaction client pour au service de la rétention.
C'est ça. C'est vrai qu'à la base, c'est vrai qu'on a plein de l'outil, plein de leviers. C'est vrai qu'on a une commission. Souvent, les restaurants, ils disent « j'ai envie de faire des économies, surtout en ce moment. Ils veulent faire des économies. » Mais c'est vrai qu'on a plein d'outils qui leur permettent du coup d'avoir des outils gratuits et qui leur permettent du coup de mieux gérer au quotidien leurs réservations. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, un dernier levier pour essayer de garder le client, malgré que ces leviers-là, on aurait pu aussi lui proposer bien avant. Parce que généralement, un client qui décide de partir, c'est qu'il a pris sa décision, justement. Donc le faire changer d'avis, ouais. Après, ça peut être un test de le garder. On fait le test pendant 2 mois, 3 mois. On regarde ce que ça donne. On regarde si vous voulez continuer avec nous. Si vous voulez arrêter, c'est votre décision. Mais le but, c'est de rester professionnel surtout et s'adapter. Et le plus important, c'est de le garder. Mais après, rien n'empêche de le retrouver un jour. Je sais pas toi, Marion, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que déjà c'est toi qui t'occupes des churns ou et comment tu le gères?
Ouais, c'est donc c'est côté c'est côté CSM qu'on gère le churn et les renouvellements. Nous, on est sur une base d'abonnement annuel et du coup, nous, notre état d'esprit, c'est qu'il faut anticiper au maximum. Comme tu le dis, s'il y a un client qui nous dit un moment j'ai envie de partir, c'est qu'il a quand même mûri sa décision et que ça va être compliqué de le garder. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être proactif au maximum. Et justement, nous, comme on monitore de manière très précise l'usage de nos clients, on va quand même bien spotter en général là où il y a des risques et là où il faut qu'on mette des efforts. En gros, de manière assez concrète, nous, on établit un health score pour chacun de nos clients. C'est un mix entre leur usage, le nombre de touchpoints qu'on a avec eux, et puis aussi le feeling du customer success manager. Toi, Charles, c'est vrai qu'avec 1000 clients, tu vas pas pouvoir avoir un feeling sur chaque restaurant. Moi, avec mes 100 clients, je vais pouvoir savoir bah, comment est-ce qu'ils sont satisfaits de l'outil, c'est quoi les points de friction, c'est quoi les risques. Et du coup, en général, 2 ou 3 mois avant le renouvellement, on fait un point bilan avec eux pour s'assurer que tout va bien. Et si jamais on sent qu'il y a un risque, redoubler d'efforts. Et du coup, si jamais on a un client qui part, bah là, notre philosophie, c'est comme tu l'as dit, bien comprendre, vraiment passer du temps à comprendre pourquoi ils partent, qu'est-ce qui leur a pas convenu, et pas forcer. On veut pas les
Okay.
retenir à tout prix. On veut re rester dans une super relation avec eux parce qu'on sait qu'il y a quand même un potentiel de retour. Et on l'a vu. On l'a déjà vu avec beaucoup de clients. Parfois, ils ont une coupe de budget. Parfois, ils ont un changement de direction. Et donc, ils remettent en cause tous leurs outils de com. Mais au final, il y en a quand même pas mal qui reviennent. Et même des gens qui ont arrêté PlayPlay dans une entreprise, mais avec qui on a gardé une très bonne relation et qui, en changeant de boîte, se réabonnent. Donc voilà.
Et que vous ayez une casquette très commerciale, très pushy ou non, ce qu'il en reste, c'est effectivement ce côté très humain, véhiculer les valeurs de l'entreprise. Et finalement, c'est ça qui est le meilleur allié du partenariat sur le long terme, si je comprends bien.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. C'est très bien résumé.
Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Donc, si j'essaye un petit peu de résumer les points clés qu'on a vus ensemble aujourd'hui, c'était vraiment le fait de pouvoir tout de suite être conscient de qui fait quoi, savoir un petit peu répartir les rôles, même s'il peut y avoir de temps en temps des doublons entre l'aspect commercial ou non, chacun en tout cas à sa place et va essayer de creuser au maximum pour satisfaire son client. On a vu également ce qui est intéressant, que on peut tout à fait s'enrichir les uns les autres et s'inspirer des méthodes. Par exemple, Charles, tu parlais tout à l'heure de la dimension empathie qui est très très forte, surtout en ce moment avec le contexte sanitaire et le couvre-feu en ce qui concerne nos amis restaurateurs. Et toi, Marion, tu disais que toi, tu as tout le potentiel finalement pour mener à bien une négo commerciale, même si aujourd'hui tu n'as pas forcément les outils, puisque voilà, le rôle d'account manager, il dépend beaucoup du type d'entreprise, de l'offre proposée. Mais peut-être que demain, tu vois, tu seras amené, comme tu parlais du côté inspirationnel, à vendre, pourquoi pas, des prestats de consulting. Donc c'est important aussi de t'imprégner de ces compétences très commerciales. Donc là, vous avez quand même bien résumé et puis on a aussi pu confirmer le fait que l'intitulé de poste account manager avait une dimension plus commerciale et le poste de CSM avait une dimension plus care. Maintenant, je pense que c'est un système de vase communicant.
C'est ça.
Tout à fait.
Top. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur ce débat. Merci beaucoup, Charles, d'être revenu au micro parce que je suis fan de mes anciens collègues de La Fourchette et je vous ai toujours dans mon cœur. Et
C'est
Marion, ça m'a
gentil.
fait hyper plaisir de te découvrir et de découvrir PlayPlay. Bonne continuation et plein de bonnes choses.
Merci
Bah
beaucoup, Karima.
merci, merci Darina, merci Marion, ce fut un plaisir.
De même.
Quel charmeur, oh là là. Salut.
Salut.
À bientôt.